C'est l'heure de retrouver l'émission Pense Bête sur CFM Cahors avec le refuge canin lotois avec à l'affiche aujourd'hui Emma. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Emma, tu es donc soigneuse, soigneur, on dit pas soignante.
Soigneur.
Hein. Soigneur,
oui.
D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous embêtent là depuis toute l'année pour nous dire non, il faut que que ça soit féminisé et tout, et toi tu nous dis le contraire.
C'est ça.
D'accord.
C'est tout
très
moi.
Bien.
C'est tout moi.
Alors, tous les mois, vous allez faire une émission. Que va-t-il se passer durant cette émission? Que peux-tu nous dire? Est-ce que tu nous présentes d'abord tes collègues ou comment tu fais? Comment tu veux faire?
Non, je voulais parler juste du refuge.
Tu as raison, le collègue, on verra après finalement.
C'est
je leur coupe la parole, ils diront rien pour l'instant.
Non, juste pour préciser que le refuge canin lotois, c'est une association de protection animale qui a pour mission principale de recueillir, héberger et proposer à l'adoption des chiens abandonnés, perdus ou maltraités. Et qu'on sera là tous les mois, c'est un rendez-vous mensuel pour parler de l'actualité de l'association. Il y aura des infos, des
mais,
conseils.
Mais pas que, des
mais
chiens.
Mais pas que, voilà, oui, bah, j'y viens. Hein,
on parlera, c'est pour faire mon jeu de mots pourris.
Des infos et des conseils sur nos petits protégés. Et un soigneur sachant soigner se doit d'être bien entouré. C'est pour cette raison que je suis avec Mélanie, notre éducateur canin. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
Et Léo, notre vétérinaire.
Et oui.
Bonsoir Léo. Bonsoir.
Puisqu'un éducateur ne peut que bien éduquer que s'il y a un bon vétérinaire. Et
c'est
un vétérinaire ne peut être qu'un bon vétérinaire sans un véritable soigneur. Voilà.
Ah, c'est joliment dit.
Voilà.
C'est très joliment dit.
Bon, on y va? C'est parti?
Écoute, je t'en prie.
Allez, on va commencer avec la rubrique de Léo.
Oui, tout à fait, bonsoir.
Oui, d'accord.
Oui, tout à fait.
Oui. Non, mais c'est la première.
Par là, tout à
je
fait.
Pensais que tu allais présenter un peu l'émission, ce qui allait se passer dans les émissions ou pas. Mais
Non, il y a du suspense.
Il y a du suspense.
Voilà, on va commencer directement avec la minute vétérinaire. Et puis je vais parler pendant un peu plus d'une minute, je vous rassure.
Ah, ça, on te fait confiance.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Donc on commence cette toute première émission avec un sujet qui va fâcher un peu puisque je vais parler des frais vétérinaires. Et justement le but de cette chronique c'est que ce soit plus trop un sujet qui fâche. Plus trop parce qu'il fâchera toujours plus ou moins. Non, pour faire le lien avec justement le refuge, c'est vrai qu'il arrive que le motif de l'abandon d'un animal ça puisse être associé au fait que une fois arrivé à l'âge adulte il demande des soins réguliers et qui dit soins dit fatalement payer un vétérinaire. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas trop l'habitude d'aller chez le véto, on peut être amené à être surpris par le prix des soins, le prix des médicaments. Et le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de détailler un petit peu dans les grandes lignes quels sont les soins de base à faire sur son animal, pourquoi amener un chien chez le véto même s'il est en bonne santé, et quel budget est à prévoir avant d'adopter un animal. Et les prix que je vais donner sont bien évidemment des approximations, ce sont des moyennes, et peuvent dans certains cas ne pas forcément être représentatifs. Voilà, il peut y avoir du plus, il peut y avoir du moins.
Une fourchette.
Et une fourchette, c'est ça. Une grosse fourchette.
Ce qui est un peu embêtant pour donner à manger aux animaux, aux chiens.
Oui, tout à fait.
Ils mangent pas avec les fourchettes.
C'est ça, ils n'ont pas de pouce opposable, donc la fourchette, c'est compliqué, effectivement. Donc on se place ici dans une situation un peu classique où, mettons, vous venez d'adopter un petit chiot de 4 mois, un petit chiot trop mignon. Voilà, c'est un tout petit chiot trop mignon, et c'est un ami à vous qui vous l'a cédé gratuitement. Il est visiblement en bonne santé, mais il n'a rien fait dessus, il n'a fait aucun soin.
À part ses besoins.
Voilà, c'est ça, et vous allez l'emmener chez le vétérinaire. On parlera ici de médecine préventive, puisque si votre chien n'est pas visiblement malade, on essaye d'anticiper un tout petit peu en s'appuyant sur le fait que, dans sa vie, il tombera certainement malade un jour. Ça va, ça suit?
Ça suit, on écoute ça.
Okay, ça c'est, pour l'instant on s'y reconnaît, on a tous vécu cette situation, du moins tous ceux qui ont eu un animal.
Très bien, tant mieux parce que j'ai pas encore tout à fait commencé finalement. On va commencer par le premier acte de prévention qui est la vaccination. Le plus important selon moi parce qu'il est déterminant pour l'espérance de vie du petit chiot et qu'il améliore grandement le pronostic de guérison de certaines maladies chez l'adulte. Donc la vaccination, c'est quoi? C'est 2 à 3 injections à 1 mois d'intervalle la première année. Selon l'âge du chiot, on va faire 2 ou 3 injections. Puis, une injection de rappel tous les ans. Et en termes de prix, il faut compter à peu près en moyenne 50 € par injection pour un chat et en moyenne 50 € pour un chien et 60 € pour un chat.
Piqûre comprise, hein?
Tout à fait, oui, piqûre comprise. Bon. Piqûre comprise, évidemment. Non, on ne vous laisse pas la piqûre à faire chez vous, c'est pas gentil. Donc pour la vaccination au total, finalement, il faut compter entre 100 et 150 € la première année, et puis ensuite 50 € par an en moyenne. Voilà pour la vaccination. On détaillera peut-être dans une autre chronique justement le détail, ce pourquoi on vaccine et contre quoi on vaccine ultérieurement.
Quel suspense.
Exactement. Et oui, continuez d'écouter l'émission. Deuxième acte de prévention, c'est l'alimentation. Ça aussi, c'est un acte primordial, puisque si on ne nourrit pas son animal, eh bien, fatalement, il ne vit pas.
Ah, jusque-là, voilà. Je comprends mieux pourquoi le mien...
Oui, tout à fait. Bah, voilà, jusque-là, je pensais que tout le monde, que c'était un peu élémentaire pour tout le monde, mais visiblement non, donc je fais bien de le préciser. Voilà, c'est un sujet très vaste, hein, l'alimentation, puisque le prix va énormément varier en fonction de ce que vous allez pouvoir lui donner. On va se mettre dans une situation classique où vous lui donnez des croquettes relativement convenables, c'est-à-dire relativement riches en protéines d'origine carnée et pas trop grasses. Voilà, on détaillera aussi l'alimentation très certainement dans une autre émission. Eh bien, en termes de prix, vous pouvez vous en sortir pour 10 à 50 euros, par mois selon le gabarit de votre chien, puisque plus il est gros, plus il va manger. Là aussi, je pense que c'est élémentaire. Même pour tout le monde.
Ça se tient.
Voilà. Troisième acte de prévention, la lutte contre les parasites. Alors, parasites externes, notamment les puces, et parasites internes, notamment...
Ne me regarde pas comme ça quand tu parles de parasites. À chaque
fois, je me sens gêné, je sais pas pourquoi. Ouais, non, voilà. Je suis désolé, c'est un réflexe. Ouais. Parasite, tac, ouais. Le regard qui fuit.
Ou alors tu louches, je sais pas.
Non, vraiment, je te regarde, je pense. Hein, c'est...
D'accord.
Je suis allé chez l'ophtalmo, je vais bien. Je vais
encore couper le micro, tu sais, je suis à la technique.
Ok, les parasites.
Là
aussi, ça dépend beaucoup de choses, du mode de vie, de la réaction de votre animal par rapport à la pression parasitaire. Mais idéalement, il faut compter à peu près 10 euros par mois pour une lutte efficace contre les puces, toute l'année, hein, j'entends, puisque les puces, c'est toute l'année. Et 30 euros par an pour une protection convenable contre les vers.
Léo, je voulais préciser puces éthiques.
Puces éthiques, tout à fait. Je parle juste des puces, effectivement, parce que je range les parasites externes. C'est le parasite. L'idée qu'on se fait du parasite externe, c'est de la puce, mais effectivement, et la plupart des traitements qui traitent les puces aujourd'hui font aussi l'éthique. Mais effectivement, c'est bien de parler des deux. Tu as raison. Donc, vous l'aurez compris, c'est surtout la première année qui coûte cher parce que déjà, il y a le prix de la vaccination qui est doublé, voire triplé. Et à la vaccination se rajoute la stérilisation qui varie en fonction du gabarit de votre animal, de son sexe et de son espèce. Là, ça va varier de 60 euros pour un chat mâle à 250 euros pour une chienne. En fonction du gabarit et du sexe, ça peut varier. Rajoutez à cela l'identification par transpondeur électronique qui coûte environ 50 euros pour l'implantation.
Ça, j'ai l'impression d'être dans Star Trek, là, tu sais.
Ouais, c'est ça.
J'ai dit transpondeur électronique. Bon, c'est une petite puce, hein, c'est rien. C'est pas, vous imaginez pas grand-chose. Voilà, on va dire ça, c'était pour les frais d'entretien. Et évidemment, si votre animal il va tomber malade, vous en doutez, le prix variera énormément en fonction des examens, des actes et des traitements. En gros, sachez seulement à titre informatif qu'une consultation chez le vétérinaire, ça coûte environ 30 euros et qu'avec les traitements et les examens pour une maladie relativement simple à traiter, comme par exemple un coryza chez le chat ou une diarrhée aiguë chez le chien, il faut prévoir entre 60 et 100 euros au total.
Et là, ça fait chier, faut le dire.
Et oui, là, ça fait chier. 60 à 100 euros, c'est la douille. Dans le cas d'une affection plus compliquée, nécessitant des soins plus intensifs, votre vétérinaire vous annoncera directement une approximation du coût total de ces soins. Alors tout ça c'est bien joli, mais ça nous fait combien au total?
Oui, s'il vous plaît.
Voilà.
Alors on prend la calculatrice.
Alors nous allons prendre l'addition. Pas de calculatrice. Allez. Puisque le site Santé Vet a estimé qu'un animal en bonne santé coûte en termes de frais vétérinaires. Voilà, je te laisse, vas-y, c'est quoi le total à peu près? Ah bah oui, c'est... Combien?
Tiens, je te le montre.
Ok.
C'est celui-là?
Entre 100 et 300 euros par an à peu près, les estimations, et je trouve ça assez représentatif. Le site va plus loin en disant qu'au total dans sa vie, un chien coûterait entre 250 euros par an pour un chien de petit gabarit et 1000 euros par an pour un chien de gros gabarit. Alors oui, quand on fait le bilan comme ça, ça fait une somme non négligeable. Ça fait à peu près 1% des dépenses des ménages français, donc c'est loin d'être négligeable. Voilà, c'est un budget à prévoir. Et il y a beaucoup de choses qui justifient le prix des soins vétérinaires, que ce soit le prix des médicaments à la base, qui coûte cher. Le fait que les vétérinaires ne bénéficient pas de réduction de la TVA sur les soins vétérinaires au même titre que les soins en médecine humaine. Et puis, il faut aussi tenir compte de la marge en vigueur, bien évidemment, appliquée par votre vétérinaire, qui prévoit évidemment un salaire en travaillant.
Et en général, de toute façon, les médicaments pour animaux, les laboratoires se rincent bien aussi.
Oui, tout à fait. Et puis alors, je ne sais pas si... Bon, certainement, oui, ils doivent prendre une sacrée com', effectivement.
Oui,
quand il y a un médicament qui marche, ils ont intérêt à le vendre.
C'est politiquement incorrect ce que je dis, mais j'assume. Je suis libre.
D'accord. Tu feras attention à ta voiture qui bouge. Non, voilà, cela dit, c'est aussi relatif, hein, ce prix-là, parce qu'on a tendance à trouver ça cher, parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison avec la médecine humaine, parce qu'on n'avance jamais les frais de soins, mais juste par curiosité, à votre avis, combien vous coûterait une nuit d'hospitalisation en service de réanimation à l'hôpital, à votre avis, à peu près?
Pas cher, je paye rien, avec la mutuelle.
Voilà, exactement. Bon, sauf que ça coûte au moins à votre mutuelle 2000 euros.
Ah,
voilà. Et une opération sur l'appendicite sur un enfant, en général, c'est autour de 6000 euros. Donc ça va chercher loin. On s'en rend pas compte quand on va chez le docteur ou quand on va à l'hôpital, mais mine de rien, ça coûte des sous. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en conclusion, les tarifs, effectivement, c'est pas donné, mais les tarifs, ils sont ce qu'ils sont, on a le droit de trouver ça cher, de s'en plaindre, et ça je vous contredirai pas dessus, parce que les vétos aussi seront les premiers à dire que c'est assez cher, mais le fait est qu'on doit faire avec, vous comme nous, les propriétaires comme les vétérinaires. Et il faut au moins étudier la question du budget quand on veut adopter un animal, comme on étudie eh bien, le reste, à savoir est-ce que je vais bien m'entendre avec lui, par exemple, ou est-ce que ça va bien se passer à la maison. Et ça pour ça, justement, je vais laisser la parole dans la suite de l'émission à mes deux collègues et on va enchaîner de suite avec la question du jour.
Alors, les frais véto, on a compris la vaccination, l'identification et tout, mais qu'est-ce qui est vraiment obligatoire?
Alors, ce qui est obligatoire vraiment pour les propriétaires, effectivement, c'est une très bonne question, dans la loi, hein, ce qui est dans la loi, l'identification par transpondeur électronique à la Star Trek, justement. L'identification donc par la puce est obligatoire pour les chiens de plus de 4 mois et les chats de plus de 7 mois qui sont nés après 2012.
Ça, voilà, c'est vraiment. Ça, c'est la loi. Ouais.
Voilà, ça, c'est la loi, c'est dans le code rural, vraiment. Après, effectivement, le reste dont j'ai parlé n'est pas spécifiquement forcé, obligatoire, mais c'est fortement recommandé. C'est donc indispensable, on va dire, pour avoir un chiot en bonne santé. Et ensuite, bon, y a d'autres choses, hein, qui sont dans la législation, notamment pour les animaux qui vont voyager à l'étranger. De manière générale, quand vous entrez sur un nouveau territoire, un nouveau pays, de manière générale, il y a pas mal de choses à faire, notamment l'identification, le passeport ou le vaccin antirabique ou certains documents qui varient, hein, selon le pays que vous allez visiter. Donc pour ça, je conseille d'aller voir un vétérinaire un mois à peu près avant les déplacements à l'étranger, de manière générale, pour vraiment pas prendre de risques, parce que ça peut être un coût justement à ce que l'animal reste à la frontière ou même à payer des amendes ou des choses comme ça, avoir des problèmes à la douane en tout cas.
Oui, et puis il y a le vermifuge pour certains pays qui est obligatoire.
Exactement, tout à fait, voilà. C'est vrai que je comptais pas trop détailler ça, mais effectivement, il y a, notamment pour les voyages en Grande-Bretagne, qui justement, il faut traiter contre l'échinococcose, donc il faut un vermifuge. L'échinococcose.
L'échinococcose.
Oui, c'est un tout petit parasite, voilà. Qui fait des grosses diarrhées et qui est absolument banni en Grande-Bretagne. Et ça risque pas de s'arranger justement avec le Brexit, je pense. Donc...
pas de politique ici.
Voilà, c'est une autre histoire. Non, mais voilà, politique vétérinaire, bien sûr. Évidemment.
Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'animal, effectivement, ça coûte cher. Ou alors, vous trouvez une solution, vous prenez un hamster. Ou vous adoptez un animal mort. Congelé ou empaillé, il coûtera pas cher.
Exactement. Pas de problème en tout cas. Non, merci pour cette question en tout cas. Et puis n'hésitez pas à poser des questions justement sur notre page Facebook.
Oui, sur notre Facebook, le Facebook du Refuge Canin Lotois. Voilà, vous n'hésitez pas à vous poser les questions. On en sélectionnera quelques-unes parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes. Mais voilà, vous n'hésitez pas à vous poser. Posez vos questions.
Je précise que ce ne sera pas moi à chaque fois qui répondra.
Si.
Non, pas forcément.
Les filles,
ça peut être une question au niveau fonctionnement du refuge, ou même au niveau veto, ou éducation.
Sur les chiens, sur les chats.
Qu'est-ce qui va se passer dans partie après la pause musicale?
Alors d'abord, voilà, on va mettre un peu de musique, et puis après, il y aura...
De la bonne musique.
De la bonne musique, bien entendu.
Toujours après, sur CFM.
Voilà, on aura un reportage sur de la médiation animale qu'on a fait en EHPAD, que le refuge a fait en EHPAD. Il y aura de l'éducation avec Mélanie.
Oui.
Il y aura un portrait d'un chien du refuge. Mmh. Et puis un petit coup de gueule.
Bah oui, ça on fait confiance là-dessus.
On a pas poussé sa gueulante en fait.
On a compris de qui c'était.
Exactement.
C'est ça. C'est Pense Bête, l'émission du Refuge Canin Lotois. Un petit peu de musique, ça ne fait pas de mal aux oreilles. Aux grandes oreilles que l'on dresse bien droite pour écouter David Bowie avec Let's Dance. Et déjà, je vois Léo qui commence à se déshabiller pour danser.
Exactement. J'ai chaud. Très chaud.
Oui, je comprends bien. Allez, vous êtes sur CFM Cahors.
And dance the blues.
Ça fait du bien, ça. Purée. Allez, il y a que sur CFM Cahors qu'on peut trouver ça, hein, bien sûr. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux.
Ou
hein.
Chez David Bowie, a priori.
Ou chez David Bowie aussi. Oui. Mais David, on l'a trouvé. Moi, j'ai trouvé ce disque dans un petit boui-boui. Un boui-boui.
Un boui-boui.
Oui, j'avoue. Oui,
je
veux pas.
Bon,
vous êtes dans le pan. Oui, mais toi, dès qu'il s'agit de bêtises, tu es toujours partant.
Tout à fait.
Et encore jeune, c'est pour ça. Vous êtes dans Pense Bête, l'émission de CFM et du refuge canin lotois. Quelle est la suite du programme, s'il vous plaît?
La suite du programme, c'est un petit reportage en immersion en EHPAD avec les chiens qui vont visiter les résidents, qui leur apportent de la compagnie, de la tendresse et vice-versa. Vous allez découvrir ça.
Et un peu de bave aussi.
Et un peu.
Effectivement, puisque le Refuge Canin Lotois est une association qui recueille et place les chiens abandonnés. Chaque mois, quelques-uns d'entre eux viennent avec des bénévoles pour rendre visite à la résidence Dolt, qui est un EHPAD à Cahors. Dans cet établissement, il y a des personnes âgées qui peuvent se déplacer, même si c'est avec des moyens plutôt mécaniques, on va dire, et d'autres qui sont alités ou doivent être dans un secteur protégé. CFM Cahors est donc allé vendredi dernier voir comment se passe une de ces visites, en compagnie d'Aude Fabre, la vice-présidente du refuge, et de deux bénévoles. Les toutous du jour sont Hector, Olga et Oriane. Et pour la directrice de l'EHPAD, Edith Bellaval-Lombard, c'est un projet qui répond à une attente et puis surtout qui fait énormément de bien.
Le projet est issu de la vice-présidente du refuge canin qui nous a demandé si nous, sur le principe, on était OK d'accueillir des chiens avec des possibles divers sur le lien social, la caresse, l'affection, le prendre soin aussi, brosser et autres. Suite à ça, on a fait une convention parce qu'il faut aussi évoluer dans un cadre conforme et sécurisant pour tout le monde. Hein. Il ne faut pas non plus, si jamais ils font tomber une personne âgée ou autre. Et depuis, ils nous rendent visite très régulièrement pour le bonheur de nos résidents et du personnel aussi. Vous avez dû voir, on s'est attaché même à certains toutous pour lesquels du coup ils nous reconnaissent même, on a l'impression. Donc voilà. Mais les résidents, il est vrai qu'il y a certains pour lesquels au quotidien on a, on va dire, des communications uniquement non verbales ou juste un clignement d'œil ou autre. Et nous qui les connaissons très bien, voyons vraiment que quand il y a un animal, il y a une autre communication qui s'établit, voire même des sourires qu'on voit très rarement parce que la vie des fois est lourde ou difficile et on voit vraiment que ça leur apporte quelque chose au quotidien dans cet échange-là et c'est riche et fort en émotions et voilà, donc on ne peut que remercier le Refuge Canin de nous avoir porté ce projet.
Et au niveau des familles des résidents, est-ce que vous avez eu des retombées?
Alors, je dirais même que c'est inversement que la situation s'est passée. On a une association des familles des résidents qui, justement, ça a été à peu près concomitant, nous avait demandé lors d'un conseil de vie sociale, donc une instance normale en EHPAD, de remettre soit un animal à temps plein au sein de l'établissement, soit d'organiser quelque chose pour que les résidents puissent bénéficier de la visite d'animaux. Donc il se trouve qu'on avait fait une enquête de satisfaction et de recueil d'informations auprès des résidents qui avait montré que c'était vraiment 50-50% de volonté d'accueillir un chien de façon permanente et 50% ne voulaient pas. Donc s'engager sur le quotidien, c'était compliqué pour nous, pour satisfaire tout le monde. Par contre, du coup, pouvoir accueillir sur des temps balisés les animaux, c'était justement l'idéal et ce que nous demandaient les familles via cette instance. Là. Donc ça a vraiment été concomitant et c'est arrivé au bon moment.
Donc c'est une action qui va se renouveler et qui se renouvellera.
Alors j'espère que c'est une action qui va pouvoir s'inscrire dans le temps. Ce qui est certain, c'est que ça ne se fait que sur la base du bénévolat, puisque ce sont des bénévoles qui viennent accompagner ces chiens visiteurs. Donc oui, nous l'espérons fortement et du coup j'appelle au bénévolat pour le refuge, pour soutenir aussi notre action envers les personnes âgées.
C'était Edith Bellaval-Lombard, la directrice de la résidence d'Olt à Cahors. Alors vous l'avez compris, pouvoir caresser et donner des friandises aux chiens, c'est quelque chose que certains de ces résidents n'avaient pas fait depuis longtemps. Le personnel de l'établissement s'en rend compte hein, d'ailleurs. Hein, et comme l'animatrice Anne Campergue, elle a vu quand même certaines personnes se transformer, mais on peut dire littéralement.
Ben, ça apporte déjà pour nos résidents le bien-être, l'apaisement. Ça permet aussi de rentrer en contact. Il y a des gens qui sont agités, qui peuvent se poser un petit peu suite à des caresses offertes aux chiens. Et aux chiens, ça leur apporte également le manque de caresses qu'ils ont. Quoi.
Vous le sentez, un apaisement,
oui,
vous ?
On sent beaucoup d'apaisement. Alors, on va le voir tout à l'heure, certainement, au secteur protégé. Ce sont des gens qui déambulent beaucoup et qui ne restent pas en place. Et là, on arrive à vraiment poser entre guillemets les gens et à ce qu'ils soient sereins pendant des fois demi-heure. Quoi.
Est-ce que vous avez, les résidents vous en parlent encore après et vous demandent quand est-ce qu'ils reviennent?
Alors oui, ceux qui sont cohérents cognitivement nous le redemandent. Ceux qui le sont un petit peu moins des fois quand ils voient un autre chien, des chiens qui viennent en visite dans l'établissement se disent ah mais on les a déjà vus, ils sont déjà venus, donc indirectement ils nous le redemandent, oui. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça plaît quand même à beaucoup, beaucoup de résidents.
Moi j'ai le temps de discuter avec Noël Boyer, vice-présidente du CCAS de Cahors. Et au Centre communal d'action sociale, on a dit oui facilement à cette action.
Alors c'est une action qui s'inscrit dans les thérapeutiques non médicamenteuses en fait. Et parce qu'on s'est rendu compte que le contact et la présence d'un animal étaient extrêmement bénéfiques en fait pour les personnes un peu isolées par une maladie ou qui ont des problèmes pour communiquer. Et personnellement, je l'ai vu. J'ai vu sur une séance précédente une personne qui était extrêmement repliée dans son fauteuil roulant et qu'on avait l'habitude de voir comme ça. Et un chien est passé à portée tout de suite, cette personne. Elle a eu un geste, elle est sortie de ce repli, elle s'est tournée vers le chien, elle a capté le chien. Et voilà, je me suis dit, c'est bon, quoi. On a trouvé le bon truc. Et le, voilà.
Vous n'avez pas eu une appréhension, quand même, au départ, parce que on a peut-être se dire, bon, des chiens, quand même, comment ils vont réagir, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont pas être trop bruts avec, en parlant des chiens vers les personnes âgées.
Oui, oui, non, pas du tout. Parce qu'en fait, l'action est construite avec le refuge canin. Le refuge connaît les animaux qui l'amènent. Bien sûr, ils sont toujours très présents, ils sont à l'autre bout de la laisse, pour le cas où le chien ait une peur quelconque, ou un usager ait une peur quelconque. Donc du coup, dans cet échange et cette réciprocité, il y a toujours la médiation du refuge qui est là. Ah non, non, moi j'ai confiance dans les techniciens et les gens qui connaissent les animaux, hein, ils connaissent... C'est comme des personnes, en fait. Hein. Ils connaissent leurs soucis, leurs angoisses, leurs réticences. On le voit bien, là, tout à l'heure, la personne qui était là, qui disait « Ah, elle n'est jamais venue », en parlant de la chienne. Hein. Elle est un peu inquiète, elle cherche partout et tout ça. Bon, voilà, donc, ils connaissent vraiment leurs bêtes. Non, on peut leur faire confiance, ça, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas eu d'incident, pas de problème. Ça a été que du bonheur, que du bonheur.
Parce que là, au moment où on parle, ils sont partis dans une structure où les gens sont un peu plus, comment on dit, difficiles.
On m'a dit qu'ils étaient dans les chambres, donc ouais. Je pense qu'ils sont allés voir des résidents qui sont alités, ouais. Voilà, et qui évidemment ne pourraient pas descendre, même en fauteuil roulant, dans ce grand hall. Mais ceci dit, c'est pas parce qu'ils sont alités qu'ils n'ont pas envie de caresser un chien, de croiser du monde et tout ça. Et c'est ce qu'ils font là, ils leur rendent visite dans leur chambre, en fait. Voilà.
Vous, personnellement, hein, là, c'est votre avis personnel, qu'est-ce qui fait ? C'est quelque chose qui est assez nouveau. On emmène des animaux dans les EHPAD, ce qui ne se faisait pas il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, d'un seul coup, on se dit, oui, finalement, c'est tout bête, mais ça fait du bien.
C'est une vieille idée ici. Il y a une association des familles. Et l'association des familles a toujours eu ce souhait d'avoir un contact et une présence animale dans l'établissement. Et bon, ça a été un peu long à se mettre en place, mais bon, là, il y a eu des financements, je ne sais pas si on vous en a parlé, on a eu des aides de la conférence des financeurs, on les a eues là, donc du coup, on en a profité hein, pour mettre pour réaliser ce vieux rêve qu'on avait, voilà. Et merci, la conférence des financeurs.
Et en même temps, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres structures de ce style qui devraient le faire ? Pas forcément chez les personnes âgées, d'ailleurs.
Ah ! Et du coup, on se questionne sur quelle autre structure ? L'hôpital, je dirais non, parce que nous, ici, c'est un établissement médico-social. Donc, dans le mot social, c'est la vie sociale et la vie, en fait. Et l'hôpital, c'est un établissement sanitaire. Donc, je pense qu'il est normal que dans un établissement sanitaire, la présence animale ne soit pas admise. Ça me paraît évident. Après, d'autres types d'établissements, ici, la résidence autonomie, peut-être. Mais il y a de la médiation animale à la résidence autonomie. On y a vu arriver des perroquets... un mouton, enfin tout un tas d'animaux comme ça.
Oui. Pas que des chiens.
Il n'y a pas que des chiens. Il y a des gens qui ont d'autres animaux pour faire de la médiation animale. Oui, c'est très amusant. Et puis d'ailleurs, maintenant, à la résidence des pins, il y a des poules. D'accord. Il y a 3 poules pondeuses, voilà.
Et vous, d'un avis personnel, là, parmi les 3 chiens, quel est votre préféré là, parmi ceux qui sont venus ?
Moi, j'aime bien Hector, celui qui est bourru, là, et qui est un peu tout fou, mais il est vraiment très attachant, ce chien. Voilà.
J'ai l'impression qu'il a fait l'unanimité, celui-là.
Ah oui, tout le monde l'aime bien, celui-là.
Alors, ce n'est pas Hector hein, que Arlette, résidente de l'EHPAD, a choisi. Concernant cette personne, son état de santé l'oblige à être dans le secteur protégé avec une dizaine de patients. Il faut un code hein, pour sortir. Et c'est avec joie qu'elle accepte de sortir Oriane en la tenant en laisse. Alors, c'est le moment, effectivement, aussi que je choisis, hein, tout simplement, pour discuter avec elle.
Et je suis très contente parce que chez moi, mon papa, il allait à la chasse. Il avait toujours son chien. Et quand mes deux sœurs, on est 3 filles, on se mettait à pleurer quand le chien était malade, déjà avant que le docteur arrive, avant le vétérinaire. Et tout ça, on se mettait avec, et on pleurait. Mais alors, qu'est-ce qu'on a pu pleurer quand ils sont morts ? Ah, moi, je le recommande aux gens. Prenez un chat, c'est gentil, mais c'est pas pareil. Le chien, il ne te quittera pas.
Vous préférez les chiens ?
J'aime les deux.
Les deux ?
Oui. Je leur fais des bons plats quand j'ai un chat ou un chien. Comme moi, tu vois, je ne suis pas maigre. Hein. Il y a de quoi. Non, mais moi, mon père était chasseur. Alors, les animaux, on en a toujours connu. Ça fait que ça, il fait beaucoup pour les enfants, ça. Hein.
Vous avez toujours eu des chiens, vous ?
Ouais. Oui, 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 toujours.
Quel a été votre chien préféré, d'ailleurs ?
Moi, j'ai préféré, attends, parce que mon père, il changeait aussi de chien, mais enfin, il les gardait. Mais enfin, il fallait des fois les emmener au vétérinaire et tout. Alors, vous m'avez dit ?
Votre chien préféré, c'était lequel de tous ceux que vous avez eus ?
Le cocker.
Le cocker ?
Oui.
Pourquoi ?
Je sais pas. Pourquoi, je sais pas, mais ils sont très beaux, oui, les cockers. Ils n'ont pas le même physique que les autres. Mais on s'y attache. J'en ai eu deux, moi. Hein. Et je les ai pleurés.
Quelle couleur ?
Marron. Clair. Ouais.
Alors, le personnel soignant m'avouera que cette personne, Arlette, hein, elle est d'habitude très dynamique. Et malgré la démence qui s'installe, eh bien, en temps normal, elle bouge tout le temps. Mais quand les chiens sont là, eh bien, pour elle, c'est un moment d'apaisement. Vous avez pu le constater, comment elle était effectivement posée et que la mémoire lui revenait aussi. La visite des chiens du refuge Canin Lotois s'achève vers 17h ce jour-là. Aude et les deux bénévoles ramèneront les trois chiens au refuge jusqu'à la prochaine visite.
Donc, suite à ce reportage, en fait, la petite Olga, du coup, a été adoptée. Elle est dans sa nouvelle famille. Ça se passe super bien. Et Emmanuel a un scoop pour nous aujourd'hui.
Un scoop en avant-première.
Ah,
Hector est réservé, va partir très prochainement dans sa nouvelle famille.
Eh bien, il le mérite.
Donc, que
bien.
Des bonnes nouvelles.
Ouais,
que
super.
CFM, l'esprit rock.
Donc, toujours dans l'esprit adoption, Emmanuel va nous présenter le portrait de Prisca qui attend encore sa petite famille, elle.
Voilà, donc elle est arrivée en mai 2019, elle, au refuge, après avoir passé son délai fourrière. Alors, Prisca, c'est une petite croisée épagnole breton de 4 ans et demi. Elle n'est pas très grande, elle fait à peu près 40 cm au garrot.
Donc, qu'est-ce que le centimètre au garrot ?
Qu'est-ce que le garrot aussi ?
Qu'est-ce que le garrot ? Déjà, le garrot, c'est...
Et qu'est-ce que le centimètre ?
Qu'est-ce que le centimètre, finalement.
Non, le garrot, c'est les épaules, donc c'est la hauteur jusqu'aux épaules, c'est ça ? Je dis
pas
de bêtises.
Donc c'est bien,
parce que la pointe de l'omoplate.
Hein, de l'omoplate, c'est ça. Donc 40 cm de haut, hein, c'est ça. Pour une quinzaine de kilos, une queue courte et une robe à dominante blanche et avec des petites taches marron. Malgré des bons instincts de chasse, Prisca, elle adore flairer les pistes durant ses promenades. Elle s'avère néanmoins être une bonne partenaire de vie. Elle est enjouée, pleine d'énergie et ne demande qu'à partager des moments complices avec son maître, tels que de folles parties de jeu, des longues balades en pleine nature, bien entendu, et de tendres moments d'affection. Des caresses, des câlins, des papouilles, Prisca, elle adore ça, hein. Attention néanmoins à son petit côté têtu et malicieux, car elle pourra jouer quelques tours à son maître et à ses congénères. L'idéal serait d'ailleurs qu'elle trouve un foyer sans autres animaux, une maison avec un extérieur clôturé pour qu'elle puisse courir après son jouet en toute sérénité. Même si elle connaît quelques ordres de base tels que le assis, le attend ou le non.
Je t'arrête parce que tu le fais mal, c'est plus le non.
C'est ça.
C'est plus réaliste, quoi.
C'est ça.
Elle est que soigneuse, elle n'est pas éducateur.
Exactement. Son éducation est à poursuivre. Un peu craintive mais gourmande, une éducation positive à la friandise sera la plus appropriée pour obtenir les meilleurs résultats. Alors, si vous pensez pouvoir rendre heureuse Prisca, n'hésitez pas à venir faire sa rencontre au refuge.
Et comment on fait alors pour si on veut adopter Prisca, Jamie ?
Eh bien, tu viens au refuge, hein, on est comble des Faxilières sur la commune du Montat.
Et vous êtes ouvert quand ?
Le mercredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche après-midi.
Qu'est-ce qui va se passer après
Qu'est-ce qui se passe après ? Après, c'est Mélanie, hein, les conseils de Mélanie, donc c'est parti.
Oui.
Bon, et écoutez, on va s'écouter Iggy Pop. C'est qui avait choisi Iggy Pop ? C'est Mélanie.
C'est moi,
ça,
Mélanie. Ouais.
Mélanie qui a choisi Iggy Pop et en plus, ça tombe bien, I Wanna Be Your Dog. Je crois qu'on peut
sans
pas
commentaire.
Sans commentaire, bien évidemment.
So many.
Bah non, il fonctionne pas le jingle finalement. C'est bien, ça commence. En même temps, c'est marqué, pour rien vous cacher, c'est marqué jingle test. On l'a fait, il n'a pas marché.
C'était peut-être un jingle silencieux finalement.
Ça doit être ça, ouais. Ça doit être
non,
ça.
Mais c'est pas grave, de toute façon, on pourra pas faire mieux qu'Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog, je pense, de toute façon, parce que le rock et les animaux, c'est tout ce qu'on aime.
Ah, c'est beau.
Et oui.
Si vous n'avez pas remarqué, vous êtes dans Pense Bête, l'émission du Refuge Canin Lotois, en compagnie de Emma, soigneuse là-bas, Mélanie, qui est éducatrice canin, et lui, là-bas.
Oui, voilà. Non, juste le mec du fond.
On va l'appeler le mec du fond,
voilà, effectivement.
Bah justement, Mélanie, éducation.
Oui.
Tiens, alors comment tu vas m'éduquer? Enfin, comment tu veux dire, de quoi tu nous parles?
Alors aujourd'hui, je vais juste vous parler déjà de le choix de l'animal, tout simplement.
Ah oui.
Voilà, avant de commencer l'éducation, on va déjà choisir son animal. Donc,
c'est pas mieux dans ce sens-là.
Voilà, hein, on va commencer par le début.
C'est meilleur.
C'est canin, hein, avec moi, c'est chien. Donc le chat, je vous en parle pas trop, mais comment bien choisir son chien ou sur quoi se baser? Donc tout simplement, déjà, vous pensez à vous, parce qu'il ne faut pas que votre animal en fait, devienne gênant ou vous embête ou devienne une contrainte. Donc quand on pense à soi, on pense d'abord à sa personne, son caractère, son environnement, son modèle familial. Donc quelques petites questions à avoir en tête. Vous êtes une personne plutôt sociable, sportive, curieuse, patiente, au contraire plutôt casanière. Donc voilà, il faut se faire une petite liste.
Ouais, il faut se faire un petit scan des choses.
De qui je suis en fait.
Qu'est-ce qui me reflète.
On dit bien tel maître, tel chien.
Oui, non, exactement. Mais c'est ça, donc c'est important d'avoir ça en tête. Ensuite, on se fait un petit bilan aussi de son activité. Est-ce que je travaille tous les jours ou est-ce que je travaille de temps en temps, mais avec des grosses plages horaires? Ou au contraire, est-ce que je suis à la retraite ou jeune retraité, j'ai envie de bouger, j'ai envie de rencontrer du monde et pas passer de j'ai travaillé tout le temps à rien. Voilà, qu'est-ce que je peux proposer à mon chien en termes de temps? Voilà. Donc le temps, pour le nourrissage, mais aussi les sorties, les soins quotidiens. Certaines races ont besoin d'être brossées, un peu plus entretenues, d'autres moins. Donc voyez ça déjà. Ces deux premières questions vous permettent d'établir un large spectre de races possibles ou de types de chiens possibles. Donc ensuite, on va préciser petit à petit le modèle familial, tout simplement, parce que il y a certains chiens avec les enfants, ça passera moins. Avec des personnes âgées, ça passera encore
c'est-à-dire,
moins.
C'est-à-dire que si jamais sur ton pitbull, tu le vois avec un bras dans la gueule, vaut mieux éviter.
Vaut mieux que t'évites.
Oh le cliché. Oh là là, que j'aime pas ça. Mais que j'aime pas ça.
Quel amalgame.
Souvent, les pitbulls sont assez protecteurs envers les enfants. Donc,
justement.
À tel point qu'ils les mordent.
Ils les mangent.
En fait, ils voulaient juste le retirer. Tiré de là où il était et puis finalement le bras n'a pas tenu, c'est tout.
Voilà. Non mais plus sérieusement, le modèle familial, c'est si on est seul, si on est ou célibataire ou avec un compagnon qu'on voit de temps en temps, si on est marié, si on projette d'avoir des enfants, en fait c'est des questions à se poser parce que votre animal, vous le prenez pour une dizaine d'années quand même. Donc,
parce que d'autant plus qu'il y en a qui ne supportent pas non plus que vous soyez, enfin vous êtes sa propriété, il ne supporte pas le conjoint. Hein,
c'est ça. Voilà, ouais. Donc c'est important de se faire son petit environnement et savoir ce qu'on va lui proposer, que ça soit dans les mois ou dans les années à venir. Donc ça c'est hyper important d'avoir ça en tête. Ensuite, l'espace, tout simplement. Hein. Emmanuel, tu pourras confirmer que certains chiens arrivent au refuge parce qu'ils manquent d'espace ou ils n'ont pas eu l'espace qu'il fallait.
Ils n'ont pas tous les mêmes besoins, c'est sûr. Hein.
Donc, ouais. L'espace, c'est important de l'avoir parce que certains chiens peuvent vivre en appartement. Après, peu importe la taille, à condition qu'ils ont des sorties régulières ou un endroit pour aller se promener au moins une fois par jour.
Ouais, une bonne activité. Hein. Ouais.
Une bonne fois par jour. Donc, en gros, c'est quel est mon environnement, ma maison, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer, même en termes de sortie, parce que si le chien fait toujours le même type de sortie, il va s'ennuyer aussi au bout d'un moment. Donc ça, on prévoit aussi son espace. Pour rejoindre Léo, on va parler aussi du budget.
Tout à fait.
Donc moi, je vais aller un petit peu plus loin. Léo a vraiment concentré sa partie sur le budget vétérinaire. Donc déjà, moi, je commence le budget du chien. Ça commence à l'acquisition. Hein. Donc si on prend un chiot dans un élevage, ça va coûter tant.
À savoir à l'achat, tu veux dire.
À l'achat. Ouais, ouais. Si on prend un chien en refuge, il y a peut-être une certaine somme, mais elle est elle justifiée.
Elle justifiée, oui.
Voilà. Emmanuel nous en dira peut-être un peu plus long là-dessus sur une prochaine émission.
Tout à fait.
Et puis après, il faut aussi prévoir le budget d'entretien. Donc quand je parle d'entretien, ça va être les croquettes, éventuellement quelques petites brosses ou coupe-griffes ou shampoings. Enfin, le entretien quotidien, tout simplement.
Et les gourmandises.
On va y venir. On va y venir.
On n'a pas encore parlé de l'alimentation.
Finalement, voilà. Je ne sais pas pourquoi je viens. Alors, je dis que des bêtises.
En fait, justement, tu es celui qui raconte les bêtises. Et il en faut.
Les friandises, ouais, on y vient parce que en fait, ça compte vachement aussi dans l'éducation. Donc, un petit paquet de friandises, c'est bien de se prévoir ça aussi dans son budget pour le chien dans le mois. Voilà.
Ça motive.
Ça motive le chien à rester à l'écoute et vous suivre. Donc après, ceux qui veulent, faut prévoir aussi le budget d'éducation.
Ouais. Ou la carotte.
Donc, mais les chiens ne mangent pas les carottes.
Ah si. Détrompe-toi, mais t'es...
Moi, j'en ai une qui mange les oranges, là. Donc,
tu vas en apprendre des choses avec nous.
Enchaîner, j'ai honte, là.
Ouais, donc le budget éducation aussi, on peut y penser, le budget de garde. Si on veut partir en vacances, qu'est-ce qu'on fait de son chien? Il faut prévoir un budget aussi là-dessus.
C'est à réfléchir effectivement avant de prendre un chien, ça. Hein.
Voilà, donc ça là-dessus, voilà. Et la dernière petite question, c'est pourquoi je prends un chien?
Oui,
Pour quelle raison?
C'est vrai.
Est-ce que c'est pour faire une activité sportive? Est-ce que c'est juste pour me tenir compagnie? Au contraire, ça fait quelques années que je suis peut-être à la retraite, je m'éloigne un petit peu du monde et j'ai envie de me socialiser à nouveau, rencontrer des personnes. En promenade, ça se fait facilement, rencontre de propriétaires de chiens. Donc voilà, c'est aussi mettre en avant ce point-là, parce que comme ça vous permet de choisir votre type de chien.
Pour les activités sportives, c'est pas mal. Hein. Tu les prends comme alter. Au début, tu commences avec un chihuahua, puis tu finis avec un gros berger. Quoi.
Voilà, tu finis avec un berger. Et puis après, si tu veux faire tout ce qui est un petit peu cardio, tu te prends un bon berger pour aller courir avec.
Oui.
Et puis, c'est top. Hein.
C'est le
top.
Cardio, c'est
ça
tout
se
moi.
Voit sur tes haltères, sur tes pectoraux. C'est bien saillant.
Dommage qu'il n'y ait pas de webcam, justement. On va peut-être en installer.
Dommage que c'est que de la radio.
C'est dommage que vous ne puissiez pas voir mes gros muscles.
Donc avec tous ces petits indices, du coup vous allez pouvoir vous diriger sur un type de chien, soit berger, soit plutôt chien de chasse,
comme dirait Michel,
chien de compagnie et tout.
Michel Berger pour ceux qui
Michel Berger.
Précise, j'explique.
Non mais je serais remarqué qu'elle ne réagit pas, elle fait exprès et toi tu
tu rentres dedans.
Ah,
tu rentres
dedans. Exactement.
Moi j'enfonce le couteau.
Faut pas m'encourager, tu sais Léo.
Ah si, j'ai été élevé à ça donc.
Et donc voilà. Donc après, vous pouvez aussi, pour avoir plus de précisions, s'il y a un chien qui vous intéresse, aller voir sur le site de la centrale canine. Donc qu'est-ce que c'est la centrale canine?
Oui, Jamie, qu'est-ce que c'est la centrale canine?
C'est un espèce de gros répertoire à chiens.
Ça doit être un paquet de livres là.
Après, c'est bien sur internet, tu peux vraiment défiler, c'est plus facile. Mais
en fait, c'est pas en PDF.
Non, heureusement. En fait, vous pouvez voir là-dedans justement les races, ce qui est possible, quel est leur comportement, leur taille, leur poids, leurs besoins. Tout est bien expliqué. C'est ce qui met aussi le standard des chiens, les lofs en fait. C'est établi sur la centrale canine. Attention, petite prévention au phénomène de mode. Le chien qu'on a vu dans le film Untel, qui a l'air trop bien, il a l'air de trop bien écouter, attention à ne pas se laisser avoir là-dessus. Quelques années, il y a des dalmatiens qui se sont fait abandonner, justement, suite au fameux film. Pareil pour les petits Jack Russell, on connaît tous le film The Mask, il y a pas mal de petits Jack Russell qui ont subi aussi ces trucs-là.
Comme il y a eu le poisson clown avec Nemo aussi.
Voilà.
C'est ça. Record d'abandon de poisson clown.
Donc évitons les préjugés sur les races et attention au phénomène de mode, ça c'est hyper important. Voilà. Même si le berger australien est numéro 1 en France.
Mais ça vaut le coup.
Ils sont très beaux, mais ça reste du berger, donc ça a besoin de bouger. Voilà.
Qu'est-ce qui va se passer après la pause? On va s'écouter une petite musique.
Ouais, une petite musique. Et puis après, du coup.
Toi, Léo, t'es venu les mains dans les poches. Je sais pas ce qui va se passer.
Il y aura la petite actualité du refuge.
Je découvre le programme.
Ah oui, d'accord. Okay.
Oui, tout à fait. Oui.
Bon, très bien. Alors, de l'actualité et puis.
L'actualité du refuge et le coup de griffe d'Emma.
Eh bien, vous êtes dans Pense Bête sur CFM. Dans quelques instants, vous aurez effectivement tout de suite. Juste après Daran et l'amour et l'air. Voilà, sur CFM Radio. Je me ressaisis.
L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est comme un éclair, on envoie la lumière, quelques secondes et c'est beau. Quelques secondes et c'est beau. L'amour c'est comme de la poussière qui vous glisse sur la peau. A-t-on fait le nécessaire? Était-il vraiment si beau? Est-ce que le plaisir de la chair ne vous rend pas parfois marteau? L'amour c'est comme un éclair qui vous foudroie de bas en haut. L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est plus lourd que l'air, l'amour aussi ça prend l'eau. C'est comme une sorte de courant d'air, y a une porte qui claque. Parfois croiser le fer, l'amour peut aussi faire froid dans le dos. Un après-midi dans une clairière, soudain s'envolent les oiseaux. Ça vous tourne la tête sous les réverbères, et ça vous ronge la peau. L'amour c'est comme un éclair. Qu'est-ce que c'est le béat? L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est comme un éclair, on envoie la lumière, quelques secondes et c'est beau. L'amour c'est comme la poussière qui vous glisse sur la peau. C'est comme une sorte de courant d'air. L'amour c'est comme un éclair, on envoie la lumière, quelques secondes et c'est beau.
On vous avait pourtant bien dit de ne pas leur donner à manger après minuit. On vous avait dit pas d'eau. Et voilà le résultat.
Dirac.
Fallait leur donner du rock. CFM, l'esprit rock.
CFM Cahors, le 100.5, et tous les mois, c'est le moment de retrouver Pense Bête, l'émission du Refuge Canin Lotois, avec Léo, vétérinaire, Mélanie, éducateur canin, et Emma, qui est soigneur. Voilà, elle insiste.
Eh bien, tu l'as bien dit.
Quelle est l'actualité? On avait dit que c'était Léo qui le disait, ouais. Vas-y.
Non, mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Alors, j'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes, justement, pour apprécier la beauté d'un jingle qui marche. Je pense que c'était très joli. Voilà, ça, c'était gratuit, c'était cadeau.
J'aurais pas dû lui donner la parole.
Exactement, voilà. Là, tu regrettes. Tu regrettes d'avoir allumé mon micro, je suis désolé, mais c'est comme ça. De toute façon, de suite, on retrouve Emma, justement, pour qui va nous présenter l'actualité du Refuge Canin.
Oui. On revient donc sur les événements qui ont marqué le refuge au mois de février. Donc ça a commencé le tout premier jour du mois. Nous, on est comme ça, on commence le premier jour avec un stand de collecte dans le magasin Gamme Vert de Cahors. Alors, c'est une opération qui a permis de récolter de nombreux sacs de croquettes, des jouets, des paniers, des produits d'entretien bien utiles au fonctionnement du refuge.
Et oui, parce que des flocons d'avoine, ça ne servira pas à grand-chose pour le refuge.
Pas vraiment. C'est vrai.
Ça nourrit son homme.
Donc voilà, j'en profite pour remercier Jocelyne, Alain, Justine, Aude et Noémie qui se sont relayés pour la tenue du stand et puis bien entendu le magasin Gamme Vert. Le 2 février, c'était la Chandeleur. Hein, et puis qui dit Chandeleur dit
crêpes.
Ouais, des crêpes. Ouais, bande de petits gourmands.
Ouais.
Donc pour cette occasion, nous étions en journée porte ouverte et notre présidente Léna était derrière le Bilig.
Qu'est-ce que c'est ?
Le Bilig, qu'est-ce que c'est ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'appareil utilisé en cuisine bretonne pour faire des crêpes. Là, vous savez, cet appareil, cette plaque ronde, circulaire, là, où vous étalez la pâte.
Ah, d'accord, je crois que c'était un jeu sur TF1, moi, le Bilig.
Non, ça c'est autre chose. Ça.
Avec la marionnette, là, ouais, effectivement. Et le rideau. J'avais dit que je te suivrais. Sur toutes tes blagues pourries, je te suis.
Bravo, bravo, bravo.
Tu es un allié.
Donc les crêpes, eh ben, les crêpes, ça nous a permis de récolter quand même une belle petite somme, 130 euros. C'est sympa, ça. Le dimanche 9 février, c'était le trail des fontaines sur la commune du Monta.
Les courbatures sont enfin passées. Hein.
Ça y est, c'est passé. Ouais. Ouais, moi aussi, ça a mis quelques jours. Hein.
Moi aussi.
Menteur. Alors le trail, c'est juste un moment extraordinaire pour les chiens. Ils sont hors de leur box, en pleine nature.
C'est un moment. Hein,
c'est ça, formidable. Alors il y en a certains qui courent, hein, d'autres qui prennent leur temps, qui reniflent. Voilà, c'est
ah, ça, hein, ils reniflent hein, tout ça, je pense
c'est
que.
Ça. Ouais. C'est ça.
Et puis pas que le sol. Hein.
Et cette année, cerise sur le gâteau, hein, il faisait beau, car l'an dernier, on s'en souvient, Mélanie.
Hein, ouais, et bien, pas c'était besoin de prendre de douche. Hein,
voilà,
voilà, c'était top.
C'était pratique. Et puis, donc, deux dates à retenir pour fin février, c'est le voilà, 25 février et le 3 mars à l'école du Monta. Mais alors là, c'est Mélanie, tu vas pouvoir plus nous en parler, puisque c'est toi qui anime ces ateliers. Qu'est-ce
ouais.
que c'est ?
Alors, du coup, le refuge, en fait, se présente aux enfants de l'école du Monta pour les sensibiliser, du coup, à l'abandon, mais aussi... par l'éducation à la communication canine, en fait. Comment comprendre le chien, arriver à décoder ses signaux et éviter les risques de morsure.
Ça, c'est bien.
Quand voilà. il vous appelle à l'aide, il fait waf, 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 waf.
Non, mais si le chien te montre les dents, l'enfant, lui, pense qu'il sourit.
Voilà.
Ah, c'est pas ça.
Et voilà.
C'est pas pareil.
Et ouais.
Hey. D'accord.
Donc, okay. Le chien ne fait pas de cheese.
D'ailleurs, il est, oui. D'accord.
Voilà.
C'est tout pour l'actualité ?
C'est tout pour la série.
C'est déjà bien.
Hein, ah, quand même.
Alors,
hein,
le bon. Grand moment, mes amis, et le grand moment d'En Pense Bête, c'est
tant
le.
Tant attendu.
Tant attendu. Je vais préparer un jingle pour ça spécial.
Ah ouais, tu nous concoctes ouais. ça.
Le
coup de griffe. Je compte sur toi. Je compte sur toi.
Coup de griffe d'Emma, tu as 2 minutes exactement.
Non, 3, mais c'est gentil en plus. Pour cette 2. Première émission, voilà, je vais commencer soft parce que sinon, après, on va dire que je râle. Que, hein, bon.
Donc, ce qui n'est pas le cas.
Non,
hein,
ce qui n'est jamais le cas.
Vous qui travaillez avec.
Ça va.
Non, voilà, donc pour cette émission, c'est voilà, c'est plus une chasse aux idées reçues concernant les chiens de chasse, justement. Parce que voilà, je me retrouve très souvent confrontée à une situation, des gens qui viennent au refuge pour adopter. Et donc voilà, bonjour, nous venons pour adopter un chien, donc là tu te dis ouais, c'est cool. Et de suite, voilà, il t'ajoute la petite phrase, mais pas un chien de chasse.
Alors là, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont ?
Alors là, c'est le truc qui te sèche, voilà. « Le chien de chasse serait-il un si mauvais compagnon de vie ?» Alors, quand on les connaît un peu, ces chiens-là, on se rend vite compte qu'il n'en est rien et qu'en fait, on est plutôt face à toute une série de clichés. Alors, du genre, voilà, le chien de chasse ne peut pas vivre en intérieur, il tire en laisse, il n'est pas propre, il n'a pas de rappel, il ne veut que chasser, il n'y a que ça qui l'intéresse. Bref, voilà, il n'est pas capable de vivre au sein d'une famille avec d'autres animaux, patati patata. En fait, bah, tout cela, c'est faux. Hein, et j'en veux pour preuve les différents témoignages des adoptants de ces chiens-là. Alors, il y a par exemple Scully, hein, Gascon Saint-Angeois, adopté au refuge en 2015, qui a pour colocataire une poule en liberté. Il y a aussi Cachou, qui a été adopté le 1er janvier et qui vit en appartement avec des teckels.
Sans avoir la jaunisse, bien
sûr. Et encore Luna, voilà, qui a été adoptée en 2018 et qui passe le plus clair de son temps. Elle a squatté le canapé du salon. Alors attention, je ne suis pas non plus en train d'affirmer que ces chiens-là sont des chiens plan-plan, sans vivacité ni aucune réactivité. Non, non. Pour moi, chaque chien est plus ou moins différent ou semblable d'ailleurs. Et il est nécessaire de prendre en compte son caractère et son tempérament pour le rendre heureux. Alors Mélanie, fais-moi plaisir s'il te plaît. J'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Pour
ouais.
toi, le
très
chien de chasse,
quand même, hein.
Ouais.
Le chien de chasse, est-il, comme on l'appelle, différent des autres chiens ?
Non, en fait, chaque chien ou chaque type de chien, du coup, a des prédispositions. Donc, le chien de chasse a la chasse. Mais après, chaque individu est complètement différent. C'est comme chez les humains. Donc, il faut prendre en compte son tempérament, son caractère, ses besoins, ses envies. Si tout ça est bien compris de la part des propriétaires, avec un peu d'éducation, vous pouvez arriver à avoir un chien de chasse de compagnie.
Et moi, j'avais un épagneul breton hein, que je vous ai montré en photo. On a duré 14 ans ensemble et c'était un magnifique compagnon. Assez clair que pour les randonnées, c'est génial parce que ça demande à se dépenser, mais c'est très... Voilà.
Oui,
c'est ma vie, mais
ouais,
tout le monde s'en fout.
Oui, voilà.
Non. C'est une belle histoire.
Oui, c'est une belle histoire, effectivement.
Voilà. C'est la fin de cette émission, les amis. Hein, désolé,
oui, va déjà falloir.
Ben oui, déjà,
oh
que le temps passe vite.
Ça passe vite.
Et vivement la prochaine.
Vivement la prochaine, c'est dans un mois, mais si vous avez envie, on peut en reprogrammer, en faire plus souvent, hein, comme vous voulez. Je dis ça, je dis rien.
Si, pour plus de renseignements, vous n'hésitez pas à aller sur refuge, le site, c'est
refugecaninlotois.com, tout simplement.
Et puis la page Facebook Refuge Canin, où il y a tous les portraits des toutous.
Il y a des photos.
Merci Mélanie.
De rien.
Merci Emma.
Merci.
Et merci Léo.
Et je t'en prie.
Et passez une bonne soirée sur CFM. Et l'émission sera rediffusée. Je sais pas pourquoi je le dis, parce que je me rappelle plus de la date. Mais voilà.
Bravo.
Elle sera rediffusée.
La suite de votre programme sur CFM.